sur le DAB+.
Second win for second battle, warm weather for forever. Two together, we'll play dead, we'll play dead. Should we make believe you remember me from a holiday delayed by a storm? Should we chance our arms alongside to hide it until the shiver in the river is gone? I'm hoping you might whistle, get up, Daisy, cause I found a reason why you're around. If I locate the field, talk you through the tangles, can you chase me till my feet touch the ground?
I'm chasing tambourine style, walking in a single car.
You whisper half thoughts to
with you.
Il est 7h à Dimboukro et Bamako, 9h à Paris.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Dans votre journal, Fabrice Le Grillet, ce constat édifiant concernant le réchauffement climatique en Europe, deux fois plus rapide que dans le reste du monde.
C'est ce que rapporte un rapport publié ce matin, et pour ne rien arranger, 2025 aura été pour le continent européen l'année la plus chaude. On y revient dans un instant.
Le roi Charles III s'est exprimé hier devant le Congrès américain.
L'occasion pour lui d'afficher l'unité entre le Royaume-Uni et les États-Unis et dans le contexte géopolitique actuel, d'appeler les Américains à rester fidèles à leurs alliés occidentaux. Nous verrons comment cette allocution a été perçue par la presse britannique.
Au Mali, 4 jours après le début des attaques coordonnées, Assimi Goïta est sorti de son silence.
Le président de la transition s'est en effet adressé à la nation hier pour tenter de rassurer et appeler à l'unité. Une situation au Mali qui, vous l'entendrez, est suivie de très près au Burkina Faso voisin.
Et puis notre dossier ce matin, Fabrice, consacré au sort des ressortissants haïtiens aux États-Unis.
La Cour suprême va examiner aujourd'hui la fin du TPS, le statut de protection temporaire, dispositif qui permettent actuellement à 350 000 citoyens d'Haïti de vivre légalement aux États-Unis, ce dont ne veut plus Donald Trump, audience capitale, donc nous y reviendrons avec Vincent Souriau.
2025, troisième année la plus chaude jamais enregistrée, c'est ce qui ressort d'un rapport publié ce matin.
Et pour l'Europe, c'est même l'année la plus chaude tout court. L'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, apporte aujourd'hui quelques preuves supplémentaires des conséquences du réchauffement climatique pour le continent. 95% de l'Europe a connu des températures supérieures à la moyenne l'an passé. Jérémy Lanche.
Le Royaume-Uni, la Norvège et l'Islande ont tous pulvérisé leur record de chaleur en 2025. La zone arctique a même vu le thermomètre dépasser les 30 degrés lors d'une vague de chaleur inédite et par son intensité et par sa durée. Mais même sans l'Arctique, l'Europe se réchauffe de toute façon très vite, explique Samantha Burgess. C'est la directrice adjointe de l'Observatoire européen Copernicus.
Sur les 30 dernières années, la planète s'est réchauffée de 0,27 degrés par décennie. C'est deux fois plus pour l'Europe, un peu plus même. Ça veut dire que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite.
Record aussi pour la température de l'océan, conjuguée à une fonte massive des glaciers et une baisse du niveau de 70% des rivières, faute de précipitations.
En mars 2025, la surface enneigée en Europe était la troisième plus faible qu'on ait jamais enregistrée. Elle était inférieure d'environ 1,32 million de kilomètres carrés. C'est l'équivalent de la superficie de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche réunies.
Et 2026 s'annonce identique, sinon pire, avec la résurgence probable du phénomène océanique El Niño qui tire les températures vers le haut. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Le réchauffement de l'Europe deux fois plus vite que dans le reste de la planète. Un dossier complet que vous pouvez retrouver sur RFI.fr.
Le discours de Charles III devant le Congrès américain hier.
Le roi d'Angleterre qui a tenu à afficher l'unité entre les deux pays dans la défense de la démocratie, quelles que soient nos différences et quels que soient les désaccords que nous pourrions avoir, a-t-il déclaré. Charles III qui, dans le contexte géopolitique actuel, appelle les Américains à rester fidèles à leurs alliés occidentaux ou encore à faire preuve d'une détermination sans faille pour la défense de l'Ukraine. Alors voyons ce qu'en a pensé la presse britannique en direct de Londres. On vous retrouve, Sidonie Gauchet, bonjour.
Bonjour.
Sidonie, les journaux anglais se montrent ce matin plutôt élogieux envers Charles III.
La presse parle d'un discours historique et a apprécié le ton mesuré d'un roi envoyé en diplomate, puisque, vous l'avez dit devant le Congrès, Charles III est marché sur une ligne étroite. Il veut rassembler, ne pas froisser. Certains disent même apaiser son hôte Donald Trump pour The Guardian. L'objectif est clair, il faut réparer la relation entre Londres et Washington. C'était donc un discours tourné vers l'alliance malgré les tensions. Même idée pour The Independent, un roi qui condamne la violence, appelle à l'unité sans jamais citer directement les divisions. Il n'y a guère que The Times qui s'aventure à une lecture plus politique, puisque le roi qui est envoyé par le gouvernement, et c'est là qui en fait est le message codé derrière les mots, les allusions à l'isolationnisme américain, est vraiment là aux tensions avec Donald Trump. Donc résultat pour la presse britannique, eh bien Charles III a réussi son pari, celui d'un souverain qui ne gouverne pas, mais qui sait jouer de son charme de monarque, comme si, à défaut des certitudes politiques, la voix la plus stable du Royaume-Uni venait pour l'occasion de la monarchie.
Sidonie Gaucher en direct de Londres. Charles III qui a été convié à un grand banquet à la Maison Blanche hier soir. À ses côtés, Donald Trump qui en a profité pour s'exprimer au sujet de l'Iran. Nous les avons vaincus militairement, a assuré le président américain. Auparavant, il déclarait que Téhéran avait fait savoir qu'il était, je cite, au bord de l'effondrement et réclamait la levée du blocus américain dans le détroit d'Ormuz. L'Iran qui, de son côté, juge que les États-Unis ne sont plus en mesure de dicter leur politique à d'autres pays. Et cet avertissement du porte-parole de l'armée iranienne, nous ne considérons pas la guerre comme terminée. Fin de citation.
Au Liban, 8 personnes tuées dans de nouvelles frappes israéliennes hier.
Frappes menées dans le sud du pays. Parmi les victimes, 3 secouristes de la défense civile. Cela porte à 48 le nombre de morts côté libanais depuis le 17 avril et le début de la trêve ô combien fragile entre Israël et le Hezbollah. En 2 mois, la guerre a poussé 1 Libanais sur 5 à fuir, soit 1 200 000 personnes déplacées.
Et dans ce contexte de guerre au Moyen-Orient, Fabrice, les Émirats Arabes Unis ont annoncé hier leur retrait de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole.
Retrait qui serait effectif dès vendredi. Ils en étaient membres depuis 1967. Le troisième plus grand producteur de brut au monde affirme agir au nom de l'intérêt national. Un coup dur pour l'Alliance avec cette décision qui survient dans un contexte de crise énergétique mondiale.
Aux États-Unis, une audience capitale pour la communauté haïtienne aujourd'hui.
À partir de 16h, heure française, la Cour suprême va examiner la fin du TPS accordé aux Haïtiens. C'est le statut de protection temporaire, un dispositif légal qui permet à 350 000 citoyens d'Haïti de vivre légalement aux États-Unis. Donald Trump veut y mettre fin. Plusieurs plaignants ont attaqué sa décision en justice. C'est notre dossier ce matin. Bonjour Vincent Sorio.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Vincent, c'est donc cette procédure décisive pour des centaines de milliers d'immigrants qui sera débattue aujourd'hui devant la plus haute juridiction américaine.
Oui, mais on va commencer, une fois n'est pas coutume Fabrice, par un coup de téléphone que nous avons passé hier à Belleville, une petite commune de l'Illinois, où se trouve l'un des 5 plaignants haïtiens à l'origine de cette procédure.
Allô, bonjour. Comment ça va, Vincent?
Il s'appelle Vilbrun d'Orsainville. Il vient à l'origine de Tabar, en Haïti, tout près de l'aéroport de Port-au-Prince. Il vit aux États-Unis depuis 2021, grâce à ce fameux TPS, le statut de protection temporaire. Et lorsque l'administration Trump a décidé d'y mettre fin, il a décidé, lui, Vilbrun d'Orsainville, de saisir la justice fédérale.
Il n'y avait pas d'autre choix. En venant ici, c'est comme si j'avais recommencé une vie. Je me suis dit, ok, je dois faire quelque chose pour mon cas et peut-être ça va aider les autres.
Il était médecin en Haïti. Aujourd'hui, il est infirmier. Son diplôme n'a pas été reconnu aux États-Unis. Comme tant d'Haïtiens, il a fui en raison de la violence des gangs. Et l'argument du ministère américain de l'Intérieur, selon lequel Haïti serait sûr désormais pour les Haïtiens, cet argument l'a interloqué.
Ils savent que la situation est critique en Haïti. Ils le savent. Le président Donald Trump, lui, il a un problème avec les immigrants. Même si vous apportez beaucoup à la communauté, ça ne suffit pas pour lui. Il veut vous envoyer dans votre pays, même si la situation est chaotique. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, lui.
Vincent, aujourd'hui, la Cour suprême entend les arguments du gouvernement et des plaignants. Le processus est à mi-chemin. Décision attendue d'ici juin. Quel peut être l'impact de cette dernière ?
Si la Cour suprême valide la fin du TPS, l'impact sera considérable. 350 000 Haïtiens aux États-Unis qui se retrouveraient sans papier du jour au lendemain, grosso modo, interdiction de travailler, très peu de solutions de repli puisque les demandes d'asile et de carte verte sont bloquées. Et attention, nous dit Andrew Tauber, l'un des avocats qui défend ces Haïtiens devant la Cour suprême, il y a d'autres implications considérables sur le plan juridique et familial.
De nombreux détenteurs du TPS aux États-Unis ont eu des enfants pendant leur séjour ici. Or, tout enfant né sur le sol américain est un citoyen américain. Donc très souvent, les détenteurs du TPS sont les parents d'un ou de plusieurs enfants américains. Il faudrait donc face à cette question, que faire de leurs enfants? Les emmener en Haïti, affronter le chaos et les menaces, ou les laisser aux États-Unis avec une sorte de tuteur légal?
À l'inverse, Fabrice, si la décision de l'administration est cassée, répit, oui, mais sans doute de très courte durée, puisqu'il suffira au gouvernement américain de trouver d'autres motifs juridiques pour relancer une mesure de suspension du TPS et un nouveau marathon judiciaire jusqu'à la Cour suprême.
Un dossier signé Vincent Sorio.
7h09 à Bamako, au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a fini par prendre la parole hier.
Oui, il était resté silencieux depuis samedi et le début des attaques coordonnées menées par les djihadistes du Jnim et les indépendantistes du FLA. Il s'est donc adressé à la nation, affirmant que le pays traverse une situation d'une extrême gravité et ajoutant qu'elle est maîtrisée. Assimi Goïta a également appelé le peuple malien à l'unité et a mis en garde contre la propagation de rumeurs. Le contexte reste tendu. entendu, hier le GNIM a annoncé entreprendre un blocus sur tous les axes de Bamako.
my skeleton wall. It rises from the earth, and it screams your name out to never cast another curse.
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Baba, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Come on, come on.
Yeah.